Chapitre 12 Les confessions de Philippe Potier. Monsieur Shortcock, reprenait le secrétaire de Monsieur Avrillier, si vous voulez savoir la vérité, beaucoup mieux que si je vous la racontais moi-même, voulez-vous avoir l'obligeance d'ouvrir cette armoire et d'y prendre sous une pile de serviettes que vous trouverez à gauche un cahier cartonné? Croyant flairer un piège, le détective répliquait « Oh, je préférerais que vous me remettiez vous-même ce cahier. »« Soit, » déclarait Potier. Il sauta à bas de son lit. Il était en bras de chemise, mais il avait conservé son pantalon. Il se dirigea vers l'armoire d'un pas résolu, l'ouvrit, et en retira un cahier volumineux, relié en gris, qui tendit au détective en disant « C'est le journal de ma vie, depuis un an. Vous pouvez en prendre connaissance. » Shortcock s'empara du manuscrit. Il se composait d'une centaine de feuillets écrits à la main, en caractères tellement fins, tellement serrés, qu'il lui fallut presque une loupe pour les déchiffrer. En tout cas, la lecture de ces pages révélatrices eût demandé un temps considérable. Or, si Shortcock était l'homme des décisions promptes, il était également celui des réalisations rapides. Tout en conservant devant lui le cahier que son interlocuteur venait de lui donner, il fit « Je vais l'emporter chez moi, afin de le lire tranquillement, à tête reposée. En attendant, je vais vous poser quelques questions auxquelles, dans votre intérêt, vous m'entendez, monsieur Potier ?» Dans votre intérêt, vous ferez bien de me répondre sans hésitation et en toute franchise. Je vous le promets, s'engageait Philippe, sur lequel le roi des détectives exerçait déjà un formidable ascendant. Shortcock attaquait. Tout d'abord, vous allez me dire quels sont les gens qui vous ont dicté ou simplement inspiré les quatre lettres anonymes qui contenait contre Jacques Morel les plus mensongères accusations. « Personne, répliquait Potier. Alors vous n'aviez pas de complice ?»« Non, je n'en ai jamais eu. Et c'est vous seul qui avez machiné toute cette histoire ?»« C'est moi ? Oh, je vous crois pas. C'est pourtant la vérité. » « Alors, ordonnait Shortcock, sur un ton qui n'admettait pas de réplique, « finissez de vous habiller afin que je puisse vous emmener au commissariat de police. »« Monsieur Shortcock, je ne vous dirai autre chose au commissaire de police que ce que je viens de vous déclarer. Je n'ai pas de complice. »« J'ai agi seul, je vous le jure. »« Mais dans quel but ?» questionnait le limier, convaincu cette fois que Potier lui disait la vérité. « J'étais amoureux, » avouait douloureusement le secrétaire. « D'une étoile, oui, je sais, scandait Shortcock. »« Oui, d'une étoile, » répétait tristement l'accusé. Le détective insinuait. « Cette étoile est bien Mademoiselle Avrillier, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » balbutiait Potier en baissant la tête. Shortcock, qui maintenant tenait en main le fil de toute l'intrigue ourdie par ce singulier et dangereux personnage, continuait d'une voix tranchante. Et c'est parce que vous vous êtes figuré, à tort ou à raison, que Mademoiselle Avrillier aimait Jacques Morel, que vous avez ourdi toutes ces machinations contre ces malheureux aviateurs. Hélas, oui, monsieur. Oh, je saisis très bien votre plan. Vous avez cherché à faire croire à Mademoiselle Martine que Morel était amoureux de sa mère. C'est cela? Et quand vous avez vu que cela ne prenait pas, vous avez écrit tour à tour à l'ami du lieutenant Moret, à Madame Avrillier. Vous avez même combiné un certain coup de téléphone de cette dernière à l'aviateur. « Mais c'est Mademoiselle Avrillier qui a téléphoné elle-même, » affirmait le secrétaire. « En ce cas, » s'exclamait le détective, « elle serait votre complice. »« Elle jamais !» protestait Philippe avec une énergie farouche. Voulant pousser jusqu'au bout les choses, le limier insistait. Ah, il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Mais je vous jure, monsieur Chantecoq, vous voulez la sauver parce que vous l'aimez. Bon, c'est évidemment très chevaleresque. Avouez donc plutôt que vous avez été qu'un agent d'exécution au service de cette jeune fille, qui, furieuse d'avoir été dédaignée par Moret, a voulu se venger de lui. À ces mots, Potier eut un sursaut de révolte. Et se redressant indigné, il s'écria « Inutile, monsieur, de plaider le faux pour savoir le vrai. Hé, là, doucement, ne vous emportez pas. Mais c'est que je ne puis pas vous entendre sans bondir, accuser cette jeune fille. On voit bien, monsieur, que vous ne la connaissez pas. Elle est la plus pure et la plus noble que j'ai jamais connue. Elle est au-dessus de toute attaque, à l'abri de tout soupçon. Elle est innocente, je vous le jure, innocente, innocente. Alors, s'exclamait le limier, pourquoi me racontez-vous que c'est elle qui a téléphoné à Jacques Moret? Parce que c'est la vérité? Oh, je ne comprends pas. Mademoiselle Avrier ne s'est pas doutée qu'elle accomplissait cet acte. Sans doute allez-vous prétendre que c'est vous qui le lui avez suggéré. Parfaitement. Après l'avoir hypnotisé. C'est cela même. Oh, ça, monsieur Potier, s'exclamait Chantecoq, qui tenait à tout prix à pousser son adversaire jusque dans son dernier retranchement. Est-ce que vous avez l'intention de vous moquer encore longtemps de moi? Monsieur Chantecoq, répliqua Philippe avec une sorte de désenchantement beaucoup plus impressionnant que ne l'eût été une indignation violente, vous avez bien tort de vous figurer qu'en ce moment je cherche à vous duper. Il est regrettable que vous n'ayez pas pu prendre connaissance de ce cahier que je vous ai remis, c'est-à-dire de mes confessions. Vous eussiez appris comment, moi, l'enfant de l'assistance publique, n'ayant jamais eu de famille, ignorant de qui j'étais né, d'où je venais, j'avais toujours été préoccupé, dès mon jeune âge, de résoudre le problème de mes origines. Dès que je gagnais assez d'argent, j'achetais des livres. Je me livrais à l'étude des sciences occultes. J'entrais en relation avec différents cercles d'études, distinguant bientôt les farceurs des gens sérieux, m'attachant à ceci et fuyant cela. Et je parvins bientôt à acquérir des connaissances assez étendues en cette science, beaucoup moins empirique que l'on veut bien le dire, et qui repose au contraire sur des données scientifiques certaines, je dirais même absolues. Et je m'y passionnais à un tel point que je m'y consacrais tous mes instants libres. Mais je ne voulais pas que M. Avrier l'apprît. C'est un esprit très réaliste que M. Avrier. Et j'avais peur qu'il ne se moquât de moi. Alors je lui fis croire que j'employais mon temps à écrire des tragédies pour la Comédie Française et l'Odéon. Il n'en était rien. Seules les études psychiques absorbèrent entièrement mon temps, et je dois dire aussi mon argent. On vous a peut-être raconté, monsieur Chantecoq, que j'étais avare. C'est une erreur. Si j'étais riche, je serais très généreux, croyez-moi. Mais les travaux que j'avais entrepris m'entraînèrent à des dépenses considérables. Je n'ai jamais reculé devant aucun frais en vue d'apprendre ce que je voulais savoir. Je voulais savoir, monsieur Chantecoq, et j'ai su. À mesure qu'il parlait, la physionomie naturellement insignifiante de Philippe Potier s'était entièrement transformée. Ses yeux agrandis lançaient d'étranges lueurs. Son front s'auréolait d'une série de reflets mystiques et sa bouche entr'ouverte dessinait une sorte de sourire fait à la fois d'amertume et d'extase. On eût dit un personnage évadé à la fois des contes d'Hoffmann et des romans de Balzac. Et Chantecoq songea « Oh, à présent, j'en suis absolument convaincu, il me dit la vérité. » Ce garçon est plutôt un demi-fou qu'un criminel. Quoi qu'il en soit, il est infiniment curieux. Et tout haut, il reprit. Qu'avez-vous su, monsieur Potier? Celui-ci répliquait. Bien que j'étais le fils naturel d'un châtelain des environs de Saumur et d'une femme de chambre attachée à son service, et que ceux-ci, d'un commun accord, plutôt que de s'embarrasser du gêneur que je pouvais être pour eux, avaient décidé de m'abandonner. J'ai même pu découvrir leur nom à tous les deux. Vous êtes allé les trouver?
Oui, monsieur Shandcock.
Et que vous ont-ils dit?
Ils ne pouvaient plus me parler. Mon père reposait dans le magnifique caveau seigneurial de ses ancêtres. Quant à ma mère, je n'ai pas pu retrouver sa tombe. Abandonnée par son séducteur, elle avait roulé le bas-fond en bas-fond. Elle était morte à l'hôpital et on l'avait jetée à la fosse commune. Une rougeur fiévreuse colora soudain les pommettes de Philippe.
Chantecoq reprit gravement. Mieux eût valu pour vous ne pas vous occuper de sciences si dangereuses, car vous eussiez ignoré à jamais cette grande tristesse et en pareil cas, le doute vaut encore mieux que la réalité.
Vous avez raison, monsieur, déclarait Potier. À ce moment, j'aurais dû brûler tous ces livres, renoncer à ces séances de spiritisme dont j'étais l'adepte assidu, à ces expériences si souvent répétées qui avaient fait de moi un hypnotiseur de premier ordre. Je ne voudrais pas, monsieur Shandcock, vous faire un coup à ce sujet, car je comprends que vous ayez hâte d'en arriver à la fin de mes confessions, qui sont appelées à jeter une clarté aveuglante sur l'affaire que vous êtes chargé de débrouiller, et par-dessus tout à établir l'innocence absolue de mademoiselle Martine.
Parlez, invitait Shandcock, très intéressé par la mentalité de cet individu, qui ressemblait si peu au coquin auquel il donnait habituellement la chasse. Sans exaltation, mais avec un accent de conviction qui n'eût pas permis même à l'esprit le plus incrédule, le plus sceptique, de suspecter sa bonne foi, Potier, parti pour livrer entièrement tous ses secrets, poursuivait. Ainsi que l'a défini Bride, le grand savant, qui s'est spécialisé dans ces si délicates questions, l'hypnotisme est un état particulier du système nerveux. Et c'est ce même Brand, puis l'illustre professeur Charcot, dont je suis le fervent disciple, qui ont introduit dans la science l'étude des phénomènes connus de toute antiquité et laissés jusque-là aux mains des empiriques. Chantecoq interrompait. N'est-ce pas ce Charcot qui a classé le magnétisme en trois catégories de phénomènes, la léthargie, la catalepsie et le somnambulisme?
Parfaitement, monsieur Shandcock. Oh, je constate avec plaisir que vous avez des notions très précises sur la question.
Bon, m'en suis occupé, en effet, afin de me documenter. Un détective ne doit-il pas être renseigné? Non pas sur tout, car ce serait impossible, mais sur le plus de choses possibles. Continuez donc.
Encouragé par la compréhension que lui témoignait son interlocuteur, Philippe reprenait.
Vous savez peut-être aussi que la qualité prédisposante que doit posséder le sujet que l'on veut endormir est la simplicité d'esprit.
Alors, cela, je l'ignorais, déclarait le détective.
Philippe développait.
Simplicité d'esprit. Ne croyez pas que je fasse la moindre allusion à ce que l'on est convenu d'appeler un simple d'esprit. Non, non. Non, l'expression plus juste serait une âme limpide, c'est-à-dire dénuée de toute tendance à la complication, à l'entêtement, à la méfiance, en un mot, une âme telle que celle de mademoiselle Avrier.
J'ai compris, ponctuait le limier.
Potier déclarait.
Mais je m'étais pris à l'aimer d'un amour d'autant plus insensé qu'il était impossible. Alors une tentation m'obséda. Ce fut, après avoir conquis sur elle un grand ascendant magnétique, de lui suggérer l'idée de m'aimer. Mais je me dis bientôt que, quand bien même parviendrais-je, contre toute vraisemblance, à lui inspirer pour moi un tendre sentiment, jamais ses parents ne m'accorderaient sa main, mais qu'ils me chasseraient même ignominieusement de sa présence, et que je perdrais ensuite la joie qui me fut permise, celle de l'adorer en silence. Il se tut, des larmes roulèrent sur ses joues. Chantecoq respecta son silence, qui d'ailleurs fut de brève durée, car quelques secondes après, il recommençait. La tentation continua à m'obséder, et bientôt, malgré que je m'en défendisse avec toute l'énergie dont j'étais encore capable, un projet criminel se forma en moi, celui de suggérer à Mademoiselle Affrier l'idée de se donner à moi. Il faudrait bien entendu que le sien m'accordât sa main. Oh, c'était abominable. Aussi ma conscience a-t-elle fini par l'emporter sur ma passion. Et ce crime que je pouvais commettre, je ne m'en suis pas rendu coupable. Hélas, sans m'en rendre compte, j'ai fait pire peut-être, c'est-à-dire ce que vous savez, et je n'aurai pas assez de toute ma vie pour m'en repentir. Potier se cacha la tête entre les mains. Un sanglot secoua ses épaules. « Je ne me trompais pas, » se dit Chantecoq. « C'est bien un demi-fou. » Puis il fit à haute voix. « Alors c'est vous qui avez suggéré à Mademoiselle Avrier de téléphoner à Jacques Moret ?»«
Oui, monsieur Chantecoq, » le détective objectait.
« Mais je croyais que pour soumettre un sujet au magnétisme, il fallait qu'il le voulût, ou tout au moins qu'il fût persuadé qu'on pouvait le magnétiser. »
Sans le moindre embarras, Philippe répliquait. « Cette théorie a fait loi pendant longtemps, puis elle a été déclarée fausse par le professeur Bernheim de l'école de Nancy, qui, à la suite d'observations faites dans des conditions telles qu'elles doivent être admises comme aussi véridiques que concluante, a déclaré qu'un sujet pouvait très bien s'endormir en dehors même de la présence de l'expérimentateur.
Ah oui, c'est-à-dire par télépathie, soulignait le limier.
C'est cela même, approuvait Potier. D'ailleurs, il n'y a pas eu plusieurs sciences psychiques, ainsi qu'on le prétend encore si faussement. Il n'y en a qu'une où tout se tient et où chaque phénomène n'est qu'un dérivé du phénomène principal.
C'est fort possible, admettait Chantecoq, mais revenons au fait.
J'y arrive, déclarait le secrétaire. Sans doute voulez-vous connaître le fin mot du véritable drame qui s'est déroulé dans la nuit du 6 au 7 juin dernier dans la chambre de Mademoiselle Avrier.
Oh, je suis fixé à ce sujet, affirmait le détective.
Vous permettez-moi d'en douter, répliquait le coupable. Et il ajouta, peut-être vous figurez-vous que je me suis camouflé en aviateur, pour que je suis ingénié à copier les traits de Jacques Moret.
Je reconnais, faisait Chantecoq, que je me suis livré à cette hypothèse, mais maintenant que je connais vos facultés d'hypnotiseur, j'ai changé d'avis.
Philippe crut remarquer une certaine ironie sous les dernières paroles qu'avait prononcées le limier. Et il se reprit aussitôt avec vivacité.
« Je crains, monsieur Chantecoq, que vous ne soyez pas entièrement convaincu que je vous ai dit toute la vérité. Voulez-vous que je vous donne tout de suite une preuve que je ne vous mens pas ? Eh bien, ce matin, rien que par la force de ma volonté, transmise directement à Mademoiselle Martine, j'ai réussi à plonger celle-ci dans un état cataleptique absolu dont je l'ai fait sortir cet après-midi vers 3 heures, toujours par le même procédé. Si cela ne vous suffit pas, voulez-vous que je suggère à Mademoiselle Avrier Non, cela me suffit, interrompait le roi le détective. Alors, s'écriait Potier, vous admettez que par la suggestion, soit pendant l'hypnose, soit même à l'état de veille, j'ai pu, chez Mademoiselle Avrier, détruire toute espèce de liberté, de personnalité, de volonté, et en faire, ainsi que l'a si bien dit le professeur Dergreen, une véritable automate, obéissant fatalement et aveuglément à l'ordre donné, et cela dans n'importe quel domaine.
Je l'admets d'autant mieux, accordait Chantecoq, que puisque Mademoiselle Avrier n'a pas un seul instant trempé dans ce complot, c'est la seule explication vraisemblable qui puisse être donnée à la scène qui s'est déroulée dans sa chambre et à laquelle nous venons de faire allusion. Et, maître absolu de la situation, l'illustre limier s'écriait « Bon, résumons-nous. Ainsi donc, vous avez suggéré à Mademoiselle Avrier de voir apparaître chez elle à 3 heures du matin un aviateur masqué. C'est cela. Vous lui avez ordonné de se bâillonner, de se ligoter et de se frapper elle-même. Parfaitement, avec la crosse d'un revolver que je lui ai suggéré de cacher ensuite sous son matelas et qui doit s'y trouver encore. Puis toujours, sous l'action directe de votre volonté, Mademoiselle Avrier s'est laissée glisser en bas de son lit. Vous l'avez maintenue en état d'hypnose jusqu'au lendemain matin. Et auparavant, vous aviez pris la précaution de déposer dans le studio de Mademoiselle Martine un bracelet-montre que le capitaine Moret avait perdu au cours du bal que M. Avrier avait donné quelques jours auparavant. Et afin de faire croire que le jeune aviateur s'était introduit chez Mademoiselle Martine par escalade, vous avez jeté la nuit, dans le jardin de l'hôtel, une échelle de corde que votre patron avait donnée au capitaine Moret et que vous avez pu dérober d'autant plus facilement qu'en votre qualité de secrétaire particulier de M. Avrier, il vous était plus facile qu'à tout autre de pénétrer dans le hangar où elle était enfermée. Potier se taisait et se contentait d'opiner de la tête. Chantecoq continuait. « Là, il n'y a plus qu'à liquider cette histoire du microphone. Cela n'est pas bien difficile. Vous vouliez entendre ce qui se disait dans le bureau de votre patron au sujet de Mademoiselle Martine. Vous n'étiez pas sans savoir qu'elle avait suscité autour d'elle de nombreux soupirants. Et au cas où un mariage aurait été décidé, vous en auriez été averti tout de suite afin d'organiser contre le futur fiancé de cette jeune fille une intrigue aussi diabolique que celle que vous avez ourdie contre celui que vous croyez aimé par elle, c'est-à-dire le capitaine Moret. Oh, vous êtes un grand misérable. Je le sais, s'écriait Philippe, mais j'étais fou d'amour. La pensée que Mademoiselle Martine pouvait être un jour la femme d'un autre me rendait capable de tous les méfaits, de toutes les infamies. Peut-être cette passion effrayante qu'il m'était impossible de réfréner, et surtout le fait qu'ayant su m'emparer corps et âme de cette jeune fille, j'ai eu la force de lutter désespérément contre cette effroyable tentation. Me vaudra-t-elle, vis-à-vis de vous, monsieur, et de ceux qui sont appelés à me juger, le bénéfice des circonstances atténuantes? Et il ajouta, « Maintenant, monsieur, accordez-moi quelques minutes. Le temps de m'habiller et vous pourrez me conduire au commissariat de police. » Un mot encore, observait Chantecoq. Dites, monsieur. Le limier précisait. Avant de venir vous trouver, j'avais fait déjà une enquête dans l'hôtel particulier de monsieur Avrier. Je m'étais rendu compte que vous pouviez entrer dans votre bureau et en sortir sans que votre patron s'en aperçût. Mais n'ayant pas eu le temps de contrôler entièrement la distribution de la maison, je serais désireux que vous me révéliez le chemin que vous preniez pour ne pas rencontrer les domestiques.
Oh, c'est bien simple, expliquait le secrétaire de M. Avrillé. Ainsi que vous avez pu le constater, mon bureau avait une porte qui donnait sur un couloir de service. Et dans ce couloir s'amorçait un escalier qui conduisait directement à la chaufferie. Je m'étais procuré une clé qui ouvrait une porte donnant directement sur l'allée de service. Et comme j'allais toujours sur moi une fausse barbe et une paire de lunettes noires, avant de sortir, je me les adaptais de façon à ne pas être reconnu si je me trouvais tout à coup en face d'un domestique. Cela ne s'est pas produit. Et qu'usiez-vous fait en ce cas? Oh, je n'en sais trop rien, répliquait Philippe. Il est probable que je me serais sauvé comme un malfaiteur, ou bien que j'aurais. Oh, je n'ose y penser. Oh, il y a déjà assez de honte sur moi. Cet après-midi, reprenait Chandecoq, lorsque je me trouvais dans le cabinet de travail de M. Avrillier, vous étiez bien dans votre bureau. Parfaitement, monsieur Chantecoq. Vous avez donc entendu tout ce qui s'est dit?
Tout.
Prévoyant, d'après le tour que prenait la conversation, que vous alliez certainement perquisitionner dans mon bureau, je me suis esquivé par la voie ordinaire. Par un soupirail qui donne sur le petit jardin en façade, je vous ai vu partir. Alors je suis revenu dans mon bureau. Constatant qu'il n'y avait plus personne dans le cabinet de M. Avrillier, j'ai vite tapé à la machine la lettre qui avait trait à vous. Oh, vous étiez singulièrement audacieux, s'écriait le détective. Car M. Avrillier pouvait rentrer brusquement, entendre le bruit de la machine. Non. Il n'aurait rien entendu, affirmait le secrétaire. La porte de communication est capitonnée d'une double épaisseur de liège. D'ailleurs, j'avais poussé le verrou. Décidément, se disait Chandecoq, cet enfant de l'assistance, ou plutôt ce fils d'un hobereau et d'une femme de chambre, était autrement doué que ne le pensait son chef. Heureusement qu'il avait gardé en lui quelques bons sentiments, sans quoi cette jeune fille était perdue. Mais, désireux comme toujours de ne rien laisser dans l'ombre, Chantecoq reprenait. Encore une question, monsieur Potier. Ce sera la dernière. Je suis là pour vous répondre, déclarait l'homme traqué qu'était l'amoureux de Martine. Chantecoq reprenait. La jalousie que vous inspirait le capitaine Jacques Moret, vous ayant conduite à commettre un véritable crime, comment se fait-il, lorsque vous avez appris que Mademoiselle Avrillé était fiancée au capitaine Alban de Montermé, que vous n'ayez pas cherché à ourdir contre ce dernier une nouvelle intrigue? Toujours avec la même précision, Potier reprenait. Parce que je savais que Mademoiselle Martine ne l'aimait pas, qu'elle n'avait songé à lui que par dépit et qu'il était infiniment probable, et même certain qu'au dernier moment, et peut-être même avant, elle refuserait de l'épouser. D'ailleurs, aurais-je eu l'intention d'entreprendre quelque chose contre cet officier, cela m'eût été extrêmement difficile. Il m'a suffi en effet de surprendre la conversation que vous aviez eue cet après-midi avec M. Avrillier pour me rendre compte que j'allais avoir en vous un adversaire contre lequel je n'étais pas de taille à lutter. Je ne me trompais pas, puisque le soir même vous m'avez découvert. Je suis vaincu, je n'ai plus qu'à me soumettre et à expier. Chantecoq réfléchit pendant quelques secondes. Puis, posant sa main sur l'épaule du misérable, qui eut la sensation que c'était la main de la justice, qui, suivant une vieille expression, s'appesantissait sur lui, il fit avec gravité: Regrettez-vous ce que vous avez fait?
Oui,
fit le secrétaire en baissant la tête. Bien vrai? Alors regardez-moi. Potier releva le front. Timidement, ses yeux se dirigèrent vers ceux de Champ de Coq, qui parurent lancer comme une double flamme. Cette fois, ce fut l'hypnotiseur qui parut être hypnotisé. « Monsieur Chantecoq, fit-il, je me suis ressaisi, j'ai été fou. Oui, c'est cela, tout à fait fou. Mais pendant que vous me parliez, je sentais ma raison revenir. À présent, je l'ai retrouvée toute. Il n'y a plus en moi que le désespoir et le repentir du mal que j'ai causé. Voilà pourquoi, je vous dis, j'ai mérité un châtiment. Quel qu'il soit, je m'y soumets d'avance. Faites de moi ce que vous voudrez. » Le roi des détectives à présent ne doutait plus. Il était devenu le maître absolu de cette volonté qui avait si bien su capter celle de Mademoiselle Avrier sans que celle-ci d'ailleurs en eût le moindrement conscience. Sur un ton d'autorité déjà moins sévère, le limier déclarait « Je veux bien croire en vos remords, mais si vous voulez me persuader de leur sincérité, il ne me suffit pas que vous acceptiez sans révolte de subir la peine que vous méritez. Il faut encore que vous m'aidiez à réparer le mal que vous avez causé. » « Monsieur Chantecoq, reprenait Philippe, je vous ai remis mes confessions, écrites, et qui corroborent les aveux que je vous ai faits. » Et, sur un ton un peu mystérieux, il ajouta « Si je venais à disparaître, la divulgation de ce document suffirait amplement à éclairer tous ceux qui ont pu croire à la culpabilité du capitaine Moret. » « D'accord, admettait le roi le détective, mais l'œuvre de réhabilitation ne sera pas complète. Il y aura une autre victime, c'est le capitaine de Monthermé. » « Comment cela ? Interrogeait Potier. « Vous venez de me dire que Mademoiselle Avrier ne l'épouserait que par dépit, et que peut-être même au dernier moment elle refuserait d'être sa femme. » « Oui, c'est mon avis, et à cela il n'y a pas de remède. » « Si ! Ponctua énergiquement le limier, et avec une expression de pitié profondément humaine, Chantecoq poursuivait. Je vais vous demander, oh, je ne l'ignore pas, un très cruel sacrifice. Celui de faire pour un autre ce que vous n'avez pas su faire pour vous. J'ai compris, s'écria Philippe, devenu livide. Oh, vous voudriez que je suggère à Mademoiselle Martine d'oublier Moret et d'aimer Monthermé. Oui, c'est cela. Mais c'est effrayant ce que vous me demandez là. C'est le seul moyen dont vous disposiez pour effacer à tout jamais les effets de vos manœuvres criminelles. Si vous obtenez ce résultat, non seulement votre conscience n'aura rien à vous reprocher, mais vous avez ma parole, et tous ceux qui me connaissent vous diront que je n'en ai jamais donné en vain. Oui, vous avez ma parole, que le silence absolu se fera sur cette affaire, que la justice n'en sera pas saisie, et que l'on vous donnera les facilités d'aller refaire ailleurs, où bon vous semblera, une existence où il vous sera permis non pas seulement d'oublier, mais encore d'espérer. Allez, maintenant, répondez-moi. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Chantecoq, bien que les conditions que vous imposez à mon rachat moral soient pour moi infiniment douloureuses, je les accomplirais volontiers si j'étais sûr de pouvoir les remplir. Mais je crains que tous mes efforts soient vains. Laissez-moi vous dire, si lorsque je plongeais Mademoiselle Avrier en état d'hypnose, je n'ai jamais songé en profiter moi-même, et c'est la seule page propre de mon atroce roman, je ne vous cacherai pas que je me suis évertué à le suggérer de ne plus aimer Moret. Qui sait si vous n'y êtes pas parvenu? J'en doute. Qui sait si le fait qu'elle ait, pour ainsi dire, offert sa main à Monthermé n'a pas été déterminé, et non point par le dépit, mais au contraire, par une transformation subite de ses sentiments provoquée par votre influence magnétique. Achevant de mettre à nu son âme ravagée, Philippe s'écriait « Je lui ai pas commandé d'aimer personne, et tout me porte à croire au contraire qu'elle aime toujours Jacques Moret et qu'Alban de Monthermé lui est indifférent. « Mais il faut qu'elle l'aime, insistait Chantecoq, pour leur bonheur à tous deux et aussi pour le repos de votre conscience. « Alors vous voulez ?»« Oui, je vous le demande. »« Oh, monsieur Chantecoq, vous avez raison de me dire que vous alliez m'imposer un cruel sacrifice. « Car j'aime encore, mademoiselle Martine, que dis-je, je l'adore en mourir. » Et vous voulez que ce soit moi qui la jette dans les bras d'un autre? Oh non, c'est au-dessus de mes forces. Que dis-je, des forces humaines? Avec un accent d'une noblesse magnifique, le roi des détectives s'écriait. Mais il ne doit rien exister au-dessus des forces humaines quand il s'agit de réparer le mal que l'on a causé. Et il ajouta. En ce moment, vous avez à choisir entre l'existence de honte et de misère ou une vie honnêtement et sincèrement rénovée. N'hésitez pas. Choisissez la bonne route et comptez sur moi pour vous aider à la trouver et au besoin pour vous rendre la main si vous vous sentez chancelé. Eh bien, soit, s'écriait Potier, entièrement désarmé. Et se précipitant tout à coup à genoux devant un fauteuil, il se plongea la tête entre les mains et il demeura là, prostré et immobile, concentrant sa pensée et son fluide sur un même objectif. Au bout de 10 minutes, il se releva. Son visage était inondé de sueur. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel et sa bouche crispée s'entr'ouvrait pour laisser expirer le souffle haletant qui soulevait sa poitrine. D'une voix brisée, il fit « Non, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Je l'ai vue, elle était encore dans son lit. Elle souriait doucement au sien. Il m'a semblé l'entendre dire très doucement « Est-ce qu'Alban viendra ce soir? Moi, c'est tout ce que je puis vous dire. C'est tout. Ces derniers mots s'étranglèrent dans sa gorge. Et fermant les yeux, il chancela. Le limier n'eut que le temps de le saisir et de le retenir dans ses bras vigoureux. Il le fit asseoir dans le fauteuil où il demeura anéanti. Chantecoq s'enfuit vers la porte et appela d'une voix forte « Mademoiselle Constance !»« Me voilà !» fit la voix de Météore. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il surgissait dans la chambre, le roi des détectives lui désignant Potier, qui avait perdu la notion de ce qui se passait autour de lui, fit d'un air satisfait. « Tout va bien, il a avoué. J'ai même en main toutes les preuves qu'il était le seul coupable. Bref, succès sur toute la ligne. »« Moi aussi, patron, » déclarait la fausse infirmière. « J'ai pas perdu mon temps. Pendant que vous étiez ici en pleine action, j'ai cuisiné la femme de ménage et elle a fini par m'avouer que M. Potier lui avait remis 500 francs. Pour qu'elle raconte partout qu'il était gravement malade et pour empêcher les gens de pénétrer chez lui. Ce dont je n'avais jamais douté, conflue le limier. Mais enfin, tu n'as pas perdu ton temps puisque cela t'a permis d'exercer tes petits talents de société. Mais notre journée n'est pas terminée. Il faut que je file tout de suite me démaquiller et que je me rende ensuite chez les avriers. Toi, tu vas rester auprès de ce malheureux. Oh, je n'ose plus dire de ce misérable qui, après toutes les émotions qu'il vient de traverser, me paraît cette fois véritablement très mal en point. Bon, tu veilleras sur lui et tu le soigneras de ton mieux. Je repasserai ici vers minuit. Je verrai alors ce que j'aurai à faire. Entendu, patron. Alors, à tout à l'heure. Chantecoq allait s'éloigner lorsqu'il fit. Ah, j'oubliais. Avec tout cela, tu n'as pas dîné. Et vous, patron? Oh, moi non plus d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Nous n'en souperons que mieux, conclut Météor. L'essentiel est que la besogne soit faite. Elle l'est, appuya le roi des détectives. Chapitre 14, que l'on pourrait presque intituler Épilogue. À l'heure où se déroulait la scène que nous venons de décrire, un petit dîner intime réunissait chez Marie-Louise Thomery, la maîtresse de la maison, le capitaine Moret et le capitaine Montermet. La joie se lisait sur leurs visages. Le terrible malentendu qui avait risqué d'endeuiller à jamais un si bel amour et une si juvénile amitié n'était-il pas entièrement dissipé, puisque le capitaine de Montermet était venu dans l'après-midi annoncer à son camarade que désormais M. Avrillé partageait sa propre conviction en l'innocence de celui qui avait été si injustement accusé. Moret, enchanté, avait absolument tenu à ce qu'Alban revint avec lui à Paris et fit lui-même à son ami le récit des événements véritablement extraordinaires auxquels tous deux avaient été mêlés. Après avoir rendu compte de sa mission à M. Avrillé et pris des nouvelles de Martine qui allait de mieux en mieux, Montfermeil avait rejoint Moret et Marie-Louise et ceux-ci l'avaient décidé à partager leur repas. Au café, Alban, qui au cours du repas avait tout raconté à la jeune femme, s'écriait « Maintenant je suis tranquille, la vérité tout entière ne tardera pas à être connue grâce à ce merveilleux détective qu'est M. Shancock. L'essentiel, déclarait Moret, est que ce nuage abominable soit dissipé. « Alors, vous ne m'en voulez pas trop ?» demandait Montherbet à son camarade. Moi, vous en vouloir, protestait Jacques. D'abord, je n'ai jamais su ce qu'était la rancune. Et puis, on avait accoutumé de telles charges contre moi que si j'avais été à votre place, c'est-à-dire le fiancé de Mademoiselle Martine, j'eusse agi comme vous, et je me demande même si j'aurais fait preuve d'autant de modération et de calme. Maintenant, reprenait Marie-Louise, je n'ai plus qu'un désir. C'est que Mademoiselle Avrillé soit convaincue qu'elle a été victime d'une hallucination. Je serais si désolé qu'il existât en elle la moindre arrière-pensée. Non, n'ayez pas cette crainte, rassurait Alban. Jusqu'à présent, ses parents, sur les conseils de leur médecin, n'ont encore rien voulu dire. Ils ont préféré attendre afin de lui mettre sous les yeux la preuve décisive, irréfutable de son erreur. Mais c'est très sage, approuvait Moret. L'essentiel est qu'elle soit persuadée que je suis un honnête homme, n'est-ce pas, Marie-Louise? Les deux amants échangèrent un regard qui révélait toute l'harmonie de leurs âmes et toute la tendresse de leur cœur. Montfermeil s'écriait: Quel crime c'eût été, mes amis, de détruire un bonheur tel que le vôtre! Oui, c'est vrai, reconnaissait Jacques. Nous nous aimons tellement. Rends-moi la justice, s'écriait Marie-Louise, que je n'ai jamais douté de toi. C'est vrai, ma chérie, s'écriait le jeune homme avec ardeur. En me donnant cette nouvelle preuve d'amour, la plus immense de toutes, tu m'as épargné la plus grande douleur qui aurait pu m'atteindre. C'est-à-dire la preuve que tu n'avais pas confiance en moi. Et s'adressant à Montfermeil, il fit avec une subite mélancolie: Vous, mon ami, vous allez avoir la joie profonde d'épouser celle que vous aimez. Je voudrais que vous disiez à Marie-Louise combien elle a tort de refuser le nom que je veux lui donner uniquement par scrupule, qui n'est qu'un excès de délicatesse ou simplement parce qu'elle craint que mes parents ne s'offusquent de me voir légitimer une union que notre mutuel amour a déjà consacrée. Marie-Louise reprenait en souriant. L'amour n'est-il pas à la fois le merveilleux prêtre et le meilleur maire qui soit au monde? Certes, approuvait mon terme, mais vous me permettez de vous parler franchement? Oh, je vous en prie. Nul plus que moi ne respecte l'union libre, lorsqu'elle est telle que la vôtre, empreinte de cette dignité, de cette exemplarité d'existence que n'offrent pas toujours les ménages réguliers. Mais Jacques, ainsi que moi, nous appartenons, oh, je ne dirais pas à la même caste, ce mot est devenu trop désuet, mais à une corporation, c'est-à-dire l'armée, où la tradition, encore plus que le règlement, a les exigences contre lesquelles il est bien difficile de se rebeller. De plus, voilà Moret devenu mieux qu'un homme du jour, c'est-à-dire une célébrité. Et dû sa modestie s'en offusquer, je dirais même une gloire nationale. Il va donc de plus en plus être obligé de paraître en public, d'assister à des fêtes, à des réceptions, à des banquets, à des cérémonies officielles, où il aurait le droit d'amener sa femme, mais pas sa compagne. Vous avez déjà dû déjà vous apercevoir, chère madame, qu'en dehors de son service qui l'absorbe beaucoup, il existera encore d'autres causes de séparation dont vous ne pouvez tous les deux que souffrir. Ah oui, comme c'est exact, approuvait Moret. Oh, si je vous dis tout cela, reprenait Alban, ce n'est nullement pour me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est parce que je suis convaincu que si rien ne peut vous séparer, tout au contraire doit vous réunir davantage, et qu'un mariage d'amour tel que le vôtre en est habituellement trop magnifique et trop rare pour que vous ne lui permettiez pas de se réaliser. Marie-Louise répliquait. Oh, je mentirais, mon cher capitaine, si je vous disais que je suis d'un avis contraire au vôtre. Mais, ainsi que je l'ai déjà dit tant de fois à Jacques, je ne veux pas être cause entre sa famille et lui d'une brouille que je redoute par-dessus tout. Tout peut bien s'arranger, s'écriait Moret. Et dès qu'ils te connaîtront, je suis sûr qu'il ne leur faudra pas une heure pour leur faire abandonner leurs préjugés. Mais c'est mon avis, affirmait Monthermé. Cependant, objectait Marie-Louise, Jacques ne peut plus me présenter au sien lui-même. Évidemment, scandait Alban. Mais il y a un autre moyen de les attendrir. Lequel? Interrogeait fiévreusement Jacques. Le chef de l'escadrille des Hirondelles précisait. Vous m'avez présenté à vos parents qui m'ont réservé le meilleur accueil et m'ont témoigné depuis ce jour une très flatteuse sympathie. Voulez-vous me permettre d'aller les voir et de leur dire tout de suite ce que je pense de votre compagne? Oh oui, s'écriait Moret. Capitaine, murmurait Marie-Louise, les larmes aux yeux, n'oubliez pas que je suis divorcée. Et je sais dans quelles conditions. Elles sont à votre honneur. Nulle femme là-bas n'est utilisée à jouer le rôle de martyr. Je ne veux pas vous raconter tout ce que je dirais à monsieur et madame Morel, mais sachez seulement que ce sont vos deux cœurs qui parleront par l'intermédiaire du mien. Marie-Louise cédait. Eh bien, maintenant, je n'ai plus d'objection à vous faire, car avec un avocat tel que vous, capitaine, la cause est gagnée d'avance. Jacques Moret, se levant, tendit ses deux mains à son ami et lui dit: Mon cher Alban, je vous devrai la réalisation de mes plus parfaites espérances, et cela, je ne l'oublierai jamais. Comme il prononçait ces mots, La sonnerie du téléphone retentit. Jacques Morel s'en vit à l'appareil, qui se trouvait dans l'antichambre. Et quelques secondes après, il revenait en disant « Monthermé, c'est vous que l'on appelle !» Monthermé se fit prendre un récepteur. Monsieur Avrier était à l'autre bout du fil et lui lançait ces mots. « Mon cher ami, je commence par vous dire que le docteur Ramey sort d'ici, qu'il a trouvé Martine on ne peut mieux, et j'ajouterai que ma fille m'a exprimé son désir de vous voir le plus tôt possible. Renouvelez encore l'expression de toute ma sincère amitié au capitaine Moret, et excusez-moi auprès de lui si je vous réclame avec autant d'insistance. » Le chef de l'escadrille des hirondelles regagna la salle à manger. « Bonne nouvelle, j'espère, » dit Jacques. « Très bonne, » répliqua Alban. « Vous me pardonnerez, madame, si je vous demande la permission de me retirer plus tôt que je ne le pensais. Ma fiancée voudrait me voir, et il m'est bien difficile, surtout en ce moment, de ne pas me précipiter vers elle. » « Mais précipitez-vous, » autorisait Marie-Louise avec un délicieux sourire. « Plus que tout autre, ne méritez pas vous d'être heureux, n'êtes-vous pas la bonté même ?»« Oui, allez, mon cher ami, » reprenait Jacques en appuyant fraternellement sa main sur l'épaule de son camarade. La jeune femme faisait observer. « Maintenant, j'espère bien que vous n'allez pas vous dire vous. Deux frères qui ne se tutoient pas ne sont pas deux frères. » « Une fois de plus, tu as dit la vérité !» s'écriait Jacques Moret joyeusement. Et s'adressant à Monthermé, il m'en scanda. « Maintenant, mon vieux, j'espère que tu viendras très souvent nous voir. »« En attendant, » ripostait le fiancé de Martine, « je t'invite demain à déjeuner avec ta femme, bien entendu. » Une chaleureuse accolade étreignit les deux jeunes gens, tandis que Marie-Louise, doucement émue, souriait à travers ses larmes de joie et d'espérance. Lorsque le monsieur Monthermé se présenta à l'hôtel des Avriers, le valet de chambre le conduisit immédiatement dans le cabinet de travail de l'industriel. Et celui-ci lui dit aussitôt, le visage épanoui, « Je viens de recevoir un coup de téléphone, très laconique d'ailleurs, de Chantecoq, qui me déclare que Potier a dit les aveux les plus complets, et que loin d'être, ou ainsi que je le pensais, un instrument entre les mains de mes ennemis, il a agi sans l'instigation des secours de personne. Chantecoq ajoute qu'il prend seulement le temps de se démaquiller et qu'il viendra ici dans très peu de temps nous donner de vive voix les détails complémentaires. Je l'attends donc, car il ne saurait tarder. Croyez-vous que ce ne soit pas inouï? Ce Philippe Potier, ce garçon en qui j'avais toute confiance, je me demande à quel mobile il a bien pu obéir, surtout par quels moyens il a pu réaliser des actes aussi extraordinaires. Peut-être était-ce un fou que j'avais chez moi. D'ailleurs, inutile d'épiloguer, puisque je vais être fixé très promptement. Tandis que j'attends Chantecoq, mon cher Alban, vous pouvez monter près de ma fille. Vous la trouverez avec sa mère et, qui plus que vous, j'en suis sûr, ne se réjouira de la retrouver souriante et délivrée de l'affreux cauchemar qui avait assombri la douce clarté de sa vie. Monthermé ne se fit pas dire deux fois et se rendit à l'appartement de Martine. Celle-ci, ainsi que l'avait annoncé son père, se trouvait avec sa mère non plus dans sa chambre, mais dans son studio. Elle était à demi étendue sur un divan. Son visage avait repris son expression habituelle, toute de sérénité et de charme. En apercevant son fiancé, elle eut un cri d'allégresse et, se levant, elle s'enfuit vers lui, l'accueillant avec un regard profond et tendre que Alain de Montermet ne lui connaissait pas. « Que je suis heureuse de vous voir, lui dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Et moi, répliquait l'aviateur, en portant à ses lèvres la main que lui tendait la jeune fille. Si vous saviez combien je suis heureux, moi aussi, de constater que les vilains nuages qui assombrissaient votre front ont disparu comme sous la baguette magique d'une fée. Oui, c'est vraiment prodigieux, appuyait Madame Avrier. C'est un véritable miracle. Le docteur Ramey, qui est venu la voir ce soir, n'en revenait pas lui-même. Il ne savait à quoi attribuer cette véritable résurrection. Mais moi, plus perspicace que lui, j'ai trouvé. Et l'adorable femme, qui était encore la belle Antoinette, fit en enveloppant sa fille allemande d'un regard tout vibrant de la plus touchante des maternités. C'est l'amour. Et tout en souriant, elle se retira après avoir envoyé un baiser à sa fille. Alors, attirant contre lui la jeune fille qui ne cessait de le contempler, Montermet s'écria: Oh oui, n'est-ce pas? Nous nous aimons. Gravement, presque avec solennité, avec une sorte d'accent mystique qui donnait à ses paroles un accent encore plus pénétrant, Martine reprenait: Oh oui, Alban, nous nous aimons. Et ma mère a raison de dire que c'est notre amour qui m'a arraché à l'étreinte persistante du mauvais rêve que j'avais vécu la nuit passée. Il faut que je vous dise, ce soir, vers 8 h 30, il s'est passé en moi quelque chose d'incroyable. Tout à coup, je me suis senti comme galvanisé physiquement et moralement, et puis tout apaisé. Vous savez, n'est-ce pas, quelle haine j'avais vouée à Jacques Moret, et combien je souhaitais, je voulais qu'il expiât le crime qu'il avait commis, le mal qu'il m'avait fait. Eh bien, tout à coup, il m'a comblé. Il m'a semblé une voix qui murmurait à l'oreille: Vous qui êtes trompé à son égard, oui, vous vous êtes trompé à son égard, ce n'est pas lui que vous avez vu, c'est un autre, un misérable, qui en ce moment souffre toutes les couleurs de l'enfer, en même temps que tous les remords qui peuvent assaillir un coupable en ce monde. Mais oubliez et ne pensez plus qu'à celui qui vous aime, à celui que vous aimez, à Alain de Montherblay. C'est avec lui que vous devez faire votre vie. C'est lui et lui seul qui saura conduire vers le bonheur vos deux cœurs faits pour battre l'un contre l'autre. Et pour s'unir, pour s'aimer toujours en une communion perpétuelle de sentiments, ne pensez plus aux cauchemars évanouis, vivez dans votre rêve réalisé, aimez votre fiancé comme il vous aime, et ce sera pour vous comme pour lui la plus durable des félicités. Tout en pressant doucement la main de Montfermet, la fille de l'industriel continua: Oui, et à ce moment, j'ai compris combien je vous adorais, oui, beaucoup, beaucoup plus que je ne le pensais, que je ne le croyais moi-même. Je suis à vous, Alban, à vous pour toujours. Car je sens, comme me l'a dit la voix mystérieuse, que nos existences vouées l'une à l'autre ne font plus fête qu'une, et c'est cela que je voulais vous dire dès ce soir. Ma bien-aimée, murmurait le jeune officier. Lentement, il inclina la tête vers la jeune fille, qui chastement lui offrait ses lèvres, et au contact des siennes, Alban comprit, ou tout au moins crut comprendre, que c'était lui qu'elle avait toujours aimé. Ainsi, Philippe Potier avait fait mieux que de tenir sa promesse à Chantecoq, de tout mettre en œuvre pour assurer le bonheur de celle qu'il avait tant aimée. Il était arrivé à chasser de son cœur un amour impossible et lui faire fleurir, tout rayonnant, celui qui répondait en ce moment d'une façon aussi absolue à l'inébranlable passion qu'elle avait inspirée au meilleur des hommes. Pendant ce temps, Chantecoq, qui n'avait rejoint M. Avrier que très peu de temps après le départ de Monthermé, expliquait à l'industriel la scène qu'il avait eue avec Philippe Potier. Le père de Martine écoutait le détective avec émotion et stress. Quand Chantecoq eut formulé son récit, M. Avrier s'écria « Bien, cet homme, je devrais l'exécrer, le haïr, puisqu'il a failli saccager mon foyer et briser à jamais la vie de mon enfant. » Eh bien, m'en sens pas le courage. » Chantecoq reprenait. Oui, à vous comme à moi, il nous inspire de la pitié. Certes, il a commis un crime abominable qui aurait pu avoir des conséquences affreuses, irréparables. Mais sa responsabilité m'apparaît bien atténuée. Les grands coupables, ce sont ce père, cette mère, qui l'ont abandonné tout jeune. Mais ils reposent tous les deux dans la tombe. Laissons tranquille leur mémoire. Cela ne servirait à rien de la réveiller dans le silence de leur tombeau. Eh bien maintenant, monsieur, ma tâche est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous remettre ce cahier, c'est-à-dire les confessions de votre secrétaire. Je viens de les parcourir en chemin. Elles sont décisives. Et je suis sûr que lorsque mademoiselle votre fille en aura pris connaissance, elle ne changera plus à incriminer le capitaine Moret. « Monsieur Chantecoq, répliquait l'industriel, il me reste vraiment maintenant à vous remercier du fond de mon cœur paternel pour le service inoubliable que vous m'avez rendu. Vous avez accompli en quelques heures un véritable miracle, et cela avec un entrain, une bonhomie et j'ajouterai une intelligence et une bonté admirables. Je vous dois mieux que beaucoup, je vous dois tout, je ne l'oublierai pas, d'aucune manière. Mais avant tout, bien que vous n'aimiez pas que l'on vous pose des questions, voulez-vous cependant me permettre de vous en adresser une? Bon, je vous en prie, 10, 100, si vous voulez. Non, non, une. » Et le père de Martine articula. « Monsieur Chantecoq, voulez-vous être mon ami ?» Spontanément, le roi des détectives répliquait. « Mais je l'étais déjà !» Tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main. On frappait à la porte. « Entrez !» fit Florent. La porte s'ouvrit, laissant apparaître le valet de chambre Cyprien, qui, l'air étonné, annonçait « Monsieur, c'est l'infirmière qui est revenue et qui demande à parler à M. Chantecoq. »« Oui, c'est mon secrétaire, » définissait le limier. « Qu'il entre !» ordonnait le maître de la maison. Météore Constance apparut, le bonnet de travers, le tablier à moitié détaché et la figure littéralement bouleversée. « Patron, » dit-il, « oh, il vient de se passer quelque chose d'effrayant. »« Quoi donc ?» interrogeait simultanément l'industriel et le détective. « Monsieur Potier est mort, » révélait Météore. « Oui, cela ne m'étonne pas, » dit Chantecoq. « Je l'avais laissé dans un si piteux état. » Il devait être cardiaque, il aura succombé à une rupture d'anévrisme. « Oh, pas du tout !» protestait Météore. Voilà comment les choses se sont passées. Après votre départ, il m'a demandé d'aller dans une crèmerie de la rue Lepic lui chercher un peu de lait. Comme il semblait très calme, j'ai cru pouvoir déférer à son désir. Est-ce que je m'en mords les doigts, patron? En effet, lorsque je suis revenu, et pourtant je n'avais pas traîné, j'ai trouvé mon bonhomme suspendu au bout d'une corde qu'il avait attachée au piton de la suspension de la salle à manger. Vite, j'ai appelé, mais avant d'appeler personne, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le ranimer. Traction, rythmée, etc., etc. Mais je t'en fiche, il n'a pas bougé, il était déjà mort depuis un moment. Alors j'ai appelé au secours et je suis parti sous prétexte d'aller chercher un médecin. Je me suis débiné, et déjà la femme de ménage me regardait d'un mauvais œil. Un peu plus, j'ai cru qu'elle allait m'accuser d'avoir assassiné ce malheureux. Oh, patron, patron, vous pouvez m'attraper. Car j'aurais fait une rude gaffe de l'écouter et de le laisser tout seul. Jamais je ne me pardonnerai cela, et la preuve, c'est que moi qui aime tant le lait, ben j'en boirai plus jamais une goutte de ma vie. Allons, calme-toi, insistait Chantecoq, ce n'est pas ta faute. Ce malheureux semblait décidé à mourir. Je l'avais vu dans ses yeux. Et rien n'aurait pu le faire changer de décision. Monsieur Avrier, si vous le voulez bien, je vais m'occuper, d'accord avec vous, de faire enterrer convenablement ce malheureux, dont la mort tragique est le point final de cette tragique aventure. Je vous remercie, monsieur Chantecoq. Maintenant, j'ai plus qu'un désir, c'est que le silence fasse complètement sur tout ce qui vient de se passer ici. Soyez rassurés, nul ne parlera. Et maintenant, rappelez-vous que si jamais ce que vous supposiez arrive, c'est-à-dire que vos ennemis vous attaquent de nouveau, sournoisement, hypocritement, dans l'ombre, comme ils l'ont déjà fait, votre ami Shotcock sera toujours là pour vous défendre. Et moi aussi, que devoir ajouter Météore. Que l'indulgence de son patron avait entièrement rasséréné. Maintenant, dit Chantecoq en s'adressant à Monsieur Avrier, je vous demande la permission de nous retirer, car mon secrétaire et moi, nous n'avons pas encore dîné. En voulez-vous qu'on vous fasse servir? Non, non, merci. Promis à Météore de l'emmener souper dans un endroit où l'on s'amuse. Seulement auparavant, il faut qu'il ait changé de costume, parce que je ne voudrais pas que demain le bruit courût, que j'ai fait la bombe avec une infirmière. À ces mots, Météore se gonfla les joues, puis s'écria: Patron, il faut que je vous dise quelque chose. Aujourd'hui, vous avez battu votre corps. En 6 heures, vous avez débrouillé l'affaire la plus difficile que j'ai jamais connue. 6 semaines après, un double mariage unissait le capitaine Moret et Marie-Louise Thomery, d'une part, et le capitaine de Monthermé et Martine Davrier, de l'autre, et Chantecoq, qui assistait à la cérémonie, put se dire: Allons, je crois que voilà un ciel bleu que j'ai réussi à débarrasser de ces nuages.